Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de l'émission du GREMOS, groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Merci à Lionel qui est à la technique, qui nous accueille aujourd'hui. Merci à Jean-Paul Gachignard que j'ai le plaisir d'inviter et de m'entretenir avec lui sur une question qui le tarabuste, qui le préoccupe depuis longtemps. Qui concerne les catastrophes minières. Alors Jean-Paul Gachignard, vous travaillez au Musée de la Mine et vous avez participé à la préparation d'une exposition consacrée aux catastrophes minières dans le bassin de la Loire qui sera inaugurée à la rentrée prochaine.
À la fin de l'année.
La fin de l'année, novembre-décembre 2019.
Voilà.
Nous allons consacrer donc cette émission à ce thème. Et sans dévoiler les secrets de votre exposition, que le public aura le plaisir de découvrir en temps voulu, nous avons voulu vous solliciter pour revenir sur cette question qui est quand même particulièrement importante pour l'histoire et la mémoire de la région stéphanoise. Alors tous les pays miniers ont été marqués par les catastrophes minières et si on interroge le public, la mémoire collective citera plus spontanément le nom de Courrières, avec plus de 1000 morts en 1906, le plus lourd bilan, je crois, de l'histoire des mines en Europe. Et quand on lit les auteurs spécialisés comme Diane Cooper-Richet ou Bruno Mattei, c'est effectivement ce nom et cet événement qui est généralement cité. Pourtant, la Loire a connu de grandes catastrophes minières et notamment une période noire dans les années 1880 et 1890. Donc avec vous, nous allons revenir sur cette question et en commençant par un historique.
Comme vous voulez, enfin une chronologie ou des grandes lignes, des grandes lignes de la chronologie.
Voilà, c'est ça. Quelles ont été les grandes catastrophes dans la Loire, les périodes les plus marquantes, et puis après on essaiera de dégager un peu les causes et les effets qu'elles ont eus.
Oui. Alors, comment dire ? Bon, d'une part, ce que je voulais dire quand même, tous les bassins miniers français ou dans le monde ont connu des accidents miniers. Hein. Toutes les zones où il y a eu des mines de charbon, peut-être des exceptions, mais je n'en suis pas sûr. Alors oui, la chronologie, donc, comment dire, en France et dans la Loire. En France, la principale catastrophe pendant longtemps, c'est celle du puits de l'île d'Elbe en 1840, près de Rive-d'Augier, à Genilac aujourd'hui, à l'époque à l'Acula, qui fait 32 morts. Et elle reste la principale pendant plus de 20 ans. Et en 1861, il y a l'inondation de la mine de l'Halle à Bessèges dans les Cévennes, qui fait 105 morts. Donc là, on passe une échelle, je dirais. Et dans les années suivantes, une explosion dans le bassin de Monceau-les-Mines, qui fait environ 90 morts. Et pour la Loire, la première grande catastrophe, enfin on est obligé de faire des degrés dans l'horreur, c'est la première explosion du puits Jabin à la fin 1871 qui fait plus de 70 morts.
Le puits Jabin qui était situé ?
Qui était situé rue de la Monta, à peu près à l'emplacement du siège social de Casino, enfin par là, rue de la Monta en
D'accord.
tout cas.
Mmh.
Oui, il faut qu'on précise les localisations.
Quand c'est possible.
C'est possible, c'est tout à fait possible. Il faut juste vérifier avec les plans d'aujourd'hui. Alors, la deuxième qui marque un changement d'échelle pour la France, c'est la deuxième explosion du puits Jabin en 1876 qui fait plus de 180 morts et le compte le plus précis actuellement serait 189. Donc là, c'est une explosion généralisée. Et ensuite, on a toute cette série noire dont tu as parlé, c'est-à-dire l'explosion du puits Châtelut en 1887, 79 morts. Donc le puits Châtelut, eh bien, il était sur le parc musée de la mine du puits Couriot. Bon, pas à l'emplacement du chevalement actuel, mais un peu plus près de la voie ferrée. Voilà. En 1889, l'explosion du puits Verpilleux, plus de 210 morts. Donc là, c'est la principale catastrophe minière de la Loire. En 1890, celle du puits Pélissier à Villebeuf, plus de 110 morts.
Oui, les Stéphanois ont du mal, je m'insère dans l'énumération, mais ont du mal à se représenter le fait qu'il y avait un puits juste au bord du cours Nadeau aujourd'hui.
Il y en avait plusieurs, en fait, dans cette zone-là. C'était
pratiquement au centre-ville.
Oui. Oui. Ça, ça nous emmène à une autre histoire. Oui. C'est où y a-t-il eu des puits dans Saint-Étienne et pourquoi c'est... Oui, on peut détailler, mais... Ouais, mais il y en avait plusieurs dans cette zone-là, oui, en effet, il y en avait 4 ou 5. C'était la concession de Villebeuf qui a fini par faire faillite dans les années 1910-1920.
1929, je crois. Enfin, la fermeture complète, c'est 29.
Oui. Voilà, essentiellement justement parce que comme c'était sous la ville, ça faisait beaucoup de dégâts miniers et il fallait payer derrière. Alors, donc 1890, donc l'explosion du puits Pélissier, 1891, celle du puits de la Manufacture, pas très loin des archives départementales aujourd'hui, plus de 70 morts, là encore. Bon. Et après, la série noire stéphanoise s'arrête, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a plus d'accidents, ça veut dire qu'il n'y en a plus qui soient aussi gros. Mmh. Et sinon, pour le XXe siècle, les catastrophes les plus marquantes, donc, c'est celle du puits Combe en 1928, alors là c'est un incendie souterrain qui fait 48 morts, en 1939, la catastrophe du Puy de la Loire, donc pendant dans les débuts de la drôle de guerre, qui fait 36 morts et qui passe presque inaperçue, un peu comme celle du Puy de l'Île d'Elbe. En 1942, celle du Puy de la Chana, qui fait au moins 65 morts et probablement un peu plus, mais on n'a pas les chiffres complets et exacts. Bon, qui est une explosion souterraine, là encore. Et après la Chana, on n'a plus d'accidents miniers qui atteignent les 10 morts dans le bassin de la Loire. Dans le bassin de la Loire.
Je m'excuse, mais accident, catastrophe. Bon, c'est les journalistes qui décident ou c'est le nombre de morts c'est...
Bah, le français est une langue vivante, donc chacun en fait ce qu'il veut. Donc les mots ont des sens différents. Non, moi, je raisonne simplement sur le thème « La catastrophe est un grand accident », mais il faut savoir qu'on a parfois parlé de catastrophe pour des accidents qui avaient fait très peu de morts. Donc,
bon, d'accord. Alors, il y a des morts, mais il y a aussi des blessés, bien sûr.
Bien sûr. Oui, oui. Et énormément. Alors... On a beaucoup moins de renseignements sur les nombres de blessés que sur les nombres de morts. On le sait, par exemple, si dans certains cas, par exemple pour le Puy de la Loire, on a à peu près autant de blessés que de morts. Mais dans d'autres cas, on n'a pas d'indication. C'est assez variable. Mais évidemment, et bon, pour donner des grandes lignes aussi, sur les deux siècles d'exploitation du bassin de la Loire, on compte qu'il y a eu à peu près 5000 morts par accident en tout. C'est l'estimation.
C'est énorme.
C'est tous accidents confondus, c'est-à-dire aussi bien les accidents individuels que les grandes catastrophes.
Bon, ça nous permet quand même de rappeler, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais on peut le rappeler, que le métier de mineur était un métier dangereux.
Ah oui, oui. Des dangers de toutes sortes et permanents.
Parce que donc, les grandes catastrophes, ce sont des explosions, mais il y a aussi des éboulements, il y a des inondations. Est-ce qu'on peut faire des catégories
Oui, on peut. Alors, en fait, le principal éboulement dans la Loire a fait 11 morts. Donc, en gros, il y a eu énormément d'éboulements. Ça a été la principale cause de mort dans les mines de charbon, mais ça a été très rarement des accidents vraiment très importants. Voilà. Bon, les inondations, on les trouve surtout au début du 19e siècle, essentiellement parce que il y a beaucoup, à l'époque, beaucoup d'anciens travaux proches de la surface et mal cartographiés. Donc on peut donner dedans, c'est ce qui se passe au Bois-Monzil en 1831. Voilà. Bon, le 1861, la mine de Lalle, donc dans les Cévennes, en fait là c'est une rivière qui est en crue et qui se déverse dans la mine, mais là aussi il y a un problème d'anciens travaux mal cartographiés, de choses comme ça. Et puis il y a les incendies souterrains, donc comme celui du Puy Combe, qui en fait a été le principal incendie minier français, qui a fait 48 morts donc en 1928. Et sinon, pour les grandes catastrophes, c'est essentiellement les explosions généralisées, qu'on appelle toujours des coups de grisou, sauf que, en fait, on ne devrait pratiquement jamais employer cette expression-là.
Mais... Alors, ça nous amène justement à un deuxième volet de cet entretien, les aspects techniques, les causes.
Voilà. Les causes. Alors, pour les grandes explosions...
Question d'insécurité aussi.
Bien sûr. Pour les grandes explosions, on a deux causes principales. On a effectivement le grisou qui est une cause réelle et un danger tout, quand même quasi permanent. Et on a les poussières de charbon qui peuvent exploser et dont le rôle exact n'a été trouvé qu'après 1907 et après Courrières, après avec la mise au point de la mise en service de la station d'essai de l'IF1, où il y a eu des expériences très systématiques qui ont montré le rôle des poussières de charbon, qui ont montré que oui, elles pouvaient produire de très grandes explosions. Avant, ça n'était pas sûr, et c'est un peu pour ça. Et en fait, comment dire, il est arrivé que le grisou produise de très grandes explosions, ou de très grands, mais très rarement. C'est arrivé surtout en Belgique, c'est arrivé un peu dans les Cévennes, et dans le bassin de la Loire, il y a eu un certain nombre de petits coups de grisou, mais pour les grandes catastrophes, on ne sait pas. Alors ça, c'est un autre aspect qui est assez décevant pour tout le monde, je dirais. Autant on connaît bien les causes des petits accidents, parce qu'il y avait des témoins. Les grandes catastrophes, il n'y a pas de témoins. Les témoins des débuts sont morts.
Ah oui, voilà. Il n'y a pas de survivants.
Il y a des survivants, mais d'abord, les survivants sont peu nombreux dans une explosion généralisée. Ils sont souvent très choqués, donc ils se souviennent de rien.
Et voilà. Par définition, ils n'étaient pas à l'endroit où voilà. A démarré la catastrophe.
Exactement, exactement. Voilà, ce qui explique que... Alors, après, ça, c'est très variable d'un accident à l'autre. Dans certains cas, on a beaucoup de renseignements, et dans d'autres, on en a très peu. Mais pour le puits Verpilleux, pour les explosions du puits Jabin... On ne sait pas, et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est très improbable que ça ait été un grand dégagement de grisou. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans le cas de figure de Courrières. Pour Courrières, la cause initiale de l'accident, de l'explosion, n'est pas connue. Les ingénieurs ont balancé entre quatre hypothèses. Et par contre, ce que Courrières a permis de trancher, c'est ce débat sur les poussières de charbon. Le rapport dit, de toute façon... La grande majorité des dégâts et des morts a été causée par l'explosion des poussières. Les explosions avaient ravagé plus de 100 km de galeries.
Alors, sans être trop compliqué, d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est que le grisou ?
Le grisou, c'est un mélange de gaz contenu dans le charbon, mais c'est essentiellement du méthane.
Du méthane.
Du méthane. Donc, c'est plus léger que l'air, ça peut s'enflammer, ça peut exploser.
Et la poussière, donc, ça provient des travaux, en fait.
Voilà, la poussière, c'est de toute façon...
C'est ce que font les piqueurs quand ils attaquent le front.
Oui. Alors, de toute façon, les poussières, bon, les poussières, c'est aussi... Enfin, pas seulement les poussières de charbon, pour le coup, qui ont causé la silicose, mais les poussières de charbon peuvent exploser comme beaucoup de poussières. Il y a eu des poussières, des explosions de farine, de poussière de blé dans des silos aux États-Unis. Il y a, un nuage de poussière de sucre peut exploser. La poussière d'aluminium peut exploser. Voilà. En fait, les poussières, quand c'est en nuage dans l'air, non, pas toutes, ça dépend lesquelles, mais quand c'est en nuage dans l'air, c'est ce qui explose le plus facilement. Voilà. Et donc, les poussières de charbon peuvent exploser à condition d'être soulevées en nuages dans l'air. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une cause initiale autre pour le début de l'accident. Et surtout, c'est des explosions qui, dans ce cas-là, la première explosion soulève la poussière dans les galeries et peut ainsi se prolonger dans des longueurs très importantes.
D'accord. Alors, on a un auteur stéphanois bien connu, Jacques Vacher. Un livre qui a été fait notamment sous la direction de Jean Lorsin, sur la publication de ses chansons, qui a consacré une chanson qui s'appelle « Le Grisou ». On va l'entendre maintenant.
Autour du puits presque insondable, on entend résonner soudain comme le fracas formidable d'un cataclysme souterrain. On sent trébucher les murailles. On voit se crevasser le sol. Il passe un vent de funérailles qui vous suffoque dans son vol. Horreur, c'est le grisou qui passe. C'est le minotaure odieux que rien n'attendrit, rien ne lasse, et qui dévore les malheureux. Il vient de frapper 100 victimes, tel est l'écho de la rumeur. Prions pour ces héros sublimes, glorieux martyrs du labeur.
Fleurissez de roses vermeilles le cercle de chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont tombés au champ d'honneur, qu'ils sont tombés au champ d'honneur.
Pour chasser la pâle famine, à l'aube, ils étaient descendus dans les entrailles de la mine, ainsi que des enfants perdus. Sous leurs rudes mains aguerries, se détachait le noir charbon. Rien, dans les mornes galeries, ne présageait l'affreux démon. Mais comme un ogre opiniâtre, le grisou vient à pas de loup. Puis, dans un grand manteau bleuâtre, les enveloppe tout à coup. Au secours, la mine est en flammes. C'est la clameur du désespoir. Petits enfants, vieillards et femmes interrogent le gouffre noir.
Fleurissez de roses vermeilles le cercle de chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont tombés au champ d'honneur, qu'ils sont tombés au champ d'honneur.
Bien que du lugubre orifice s'échappe une vapeur de feu, de hardis preux entrent en lice pour sauver leurs frères en Dieu. Tous, sans faiblir au sein des ombres, vont tenter un suprême effort. Mais il n'est plus sous les décombres que le silence de la mort. À l'heure où le soleil s'efface, dans les nuages irisés, on ne remonte à la surface que troncs humains carbonisés. Hélas, dans ces tristes épreuves, c'est trop de deuil et de sanglots, trop d'orphelins et de veuves, de doux regards à jamais clos.
Fleurissez de roses vermeilles le cercle de chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont
Il faut pourtant à la patrie de quoi fournir ses arsenaux. Du combustible à l'industrie comme à la fin des hauts fourneaux. C'est pourquoi nos mineurs stoïques, que nul ne saurait outrager, comme des soldats héroïques, meurent en frondant le danger.
Chaque mineur et souvenez-vous dans vos veilles qu'ils sont tombés au champ d'honneur, qu'ils sont tombés au champ d'honneur.
Eh bien, après cette magnifique chanson, ce magnifique texte de Jacques Vacher, interprété par Béatrice Moulin et mis en musique par Nathalie Fortin, nous revenons avec Jean-Paul Gachignard sur la question des catastrophes minières et notamment sur cette question du grisou, justement évoquée par ce texte. Il est dit, j'ai noté, comme un ogre opiniâtre, le grisou vient à pas de loup. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est une... En fait, à l'époque, ils ne savent pas. C'est-à-dire, oui, il y a une hantise du grisou dès les années 1820-1830. Et le rôle des poussières de charbon dans les grandes explosions minières n'est connu qu'après Courrières, donc entre 1907 et 1910. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'en 1889, eh bien, le public, les ingénieurs s'interrogent. Y a-t-il seulement le grisou? Quel est le rôle des poussières de charbon? Les Anglais pensent que les poussières jouent un grand rôle. Certains ingénieurs de français sont contre disent « ah non, c'est pas possible ». Voilà. Et dans le grand public, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parle toujours de coups de grisou. Mais en pratique, il y a un ingénieur stéphanois qui pose la question dans un journal après Verpieux en disant « mais comment a-t-on pu trouver des pareils volumes de gaz ?» Et ça, c'est une vraie question. Si c'est le grisou, comment a-t-on pu trouver un tel volume? Alors, les dégagements instantanés, c'est-à-dire des dégagements de gaz sous pression, c'est arrivé dans les mines, c'est arrivé en Belgique, c'est arrivé dans les Cévennes, c'est arrivé un petit peu dans la Loire, mais avec des dégagements instantanés beaucoup moins importants. En pratique, il est très improbable que ça ait été des grands réservoirs de gaz qui aient causé Verpilleux ou qui aient causé le Puy-Jabin. De loin le plus probable, c'est les poussières. C'est-à-dire qu'on est obligé d'analyser, de faire un peu une analyse rétrospective en se disant, avec les connaissances d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est probable pour autrefois? Mais de toute façon, on ne trouve que du probable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves.
Oui, puisqu'on n'a pas fait les mesures, on n'avait pas les moyens. Ça vient après coup, de toute
façon. Voilà, il n'y avait pas les connaissances techniques. Et aujourd'hui, il est bien impossible d'aller vérifier sur les lieux. Donc, voilà.
Alors, l'enquête vient après coup. Mais la grande question qui va être posée par les mineurs assez vite, c'est comment prévenir? Comment empêcher la catastrophe? Coup de grisou, coup de poussière, mais comment faire pour éviter que ça explose?
Oui, c'est les mesures de sécurité. Alors, c'est une préoccupation même des ingénieurs des mines, presque avant les mineurs. C'est-à-dire, c'est une des préoccupations qu'on trouve dès qu'il y a une administration des mines en France, et donc dès le début du 19e siècle. Alors, la première étape, c'est la lampe Davy qui est inventée en 1815. Donc, c'est la lampe de sûreté avec un grillage qui empêche justement d'enflammer le grisou, même s'il y a une flamme à l'intérieur, la flamme ne se propage pas à l'extérieur à cause de la finesse du grillage. Voilà. Et ensuite, toutes les lampes de sécurité des mines dérivent de la lampe Davy, puisqu'elle est perfectionnée, on ajoute des verres, on ajoute des cuirasses, on ajoute des systèmes de fermeture, on ajoute des systèmes de rallumage, enfin, il y a toute une évolution. Et puis, à la fin du 19e, il y a aussi beaucoup de discussions sur l'aérage, la ventilation des mines. De toute façon, c'est une bonne chose pour les ouvriers d'avoir plus d'oxygène, ça c'est sûr. Mais c'est aussi, ça permet de diluer le grisou et de l'évacuer plus facilement. Donc après Courrières, donc il y a la station de Liévin. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a la découverte du rôle exact des poussières de charbon dans les grandes explosions minières. Et il y a trois mesures qui sortent des expériences de Liévin. Il y a les arrêts barrages, donc les Tafanel, inventés par Jacques Tafanel, le directeur de Liévin.
Ça consiste en quoi, ça?
C'est des bacs qui contiennent soit de l'eau, soit des poussières stériles, c'est-à-dire des poussières qui ne peuvent pas s'enflammer, et qui sont sur des planches au toit des galeries, donc en hauteur, et placées de telle manière à ce que s'il y a un courant d'air violent, elles soient renversées. Les bacs soient renversés. Et donc l'eau tombe en travers de la galerie, et s'il y a suffisamment de ces bacs, ça fait une zone que la flamme ne peut pas traverser, ou en tout cas peut traverser très difficilement. C'est ça le principe de l'arrêt barrage. Il y a la schistification qui consiste à mélanger des poussières stériles dans les zones des galeries où s'accumulent des poussières. Donc parce que s'il y a trop de poussière stérile, le mélange de poussière ne peut pas s'enflammer, donc c'est une manière de faire. Et il y a l'arrosage, il y a qui consiste à arroser systématiquement les zones de tir pour empêcher qu'un tir de mine mette le feu à des poussières à proximité. C'est les trois mesures. Alors, contre les inondations, les mesures principales, en fait, elles sont prises dès le début du 19e par les, dès la loi de 1810, par le, l'obligation de faire des plans systématiquement et de les communiquer à l'administration des mines. Après, il y a tout ce qui est accident de machine, accident d'ascenseur, accident de benne, accident, enfin, toute machine en tout genre. Bon, il y a des dispositifs de parachute pour empêcher les ascenseurs de tomber au fond si les câbles cassent. Il y a toutes sortes de perfectionnements qui sont pris. Oui, je crois que j'ai listé les grandes lignes.
Et pour les éboulements, c'est la question de l'étayage de...
Alors, les systèmes de boisage sont perfectionnés au long du 19e. Ils sont perfectionnés ensuite au 20e avec les systèmes de soutènement marchand, de soutènement métallique, donc sensiblement plus résistants que les boisages. Bon, le risque d'éboulement, lui aussi, est quand même resté permanent. C'est-à-dire, de toute façon, quel que soit... les mesures de sécurité prises, il est resté des risques et des dangers.
Vous avez parlé de la loi de 1810. Est-ce qu'il y a d'autres lois postérieures très importantes, par exemple sur la question des délégués mineurs aussi,
peut-être. 1890, les délégués mineurs. Alors,
ça, c'est important quand même.
C'est important pour la sécurité. C'est important dans l'histoire de la représentation des ouvriers sur les lieux de travail en France. La demande, en fait, les demandes des mineurs étaient d'avoir des prud'hommes mineurs pour juger des litiges du travail. Parce que les mines, il n'y avait pas de prud'hommes pour les mines, parce que de tout temps dans la tradition française, la mine est une profession réglementée par l'État. Et donc, il n'y avait pas ni de système de jurande, ni de système de prud'hommes. Voilà. Et en 1883, la Fédération des mineurs de France réclame des prud'hommes mineurs. Il y a une discussion parlementaire qui est très très longue et qui aboutit à ce qu'il y ait des délégués mineurs pour la sécurité. Voilà. Mais la demande initiale n'était pas celle-là en fait. Mais bon.
Et l'intérêt pour les mineurs, c'est d'avoir des gens d'abord qui connaissent bien le métier et puis qui ne sont pas forcément du côté du patronat, entre guillemets.
Bien sûr. Après, sur le rôle des délégués mineurs dans la sécurité elle-même, bon, je vais peut-être être un peu dérangeant, mais il a été très variable d'après les rapports que j'ai pu lire. Mais j'en ai pas lu beaucoup, il faut dire. Effectivement, certains délégués mineurs sont devenus de véritables experts de sécurité minière et on trouve dans telle ou telle publication syndicale des rapports extrêmement bien faits, y compris du point de vue technique.
On en connaît à Saint-Étienne.
L'exemple que j'ai en tête est dans le Tarn, mais encore une fois, j'ai pas lu beaucoup.
Je pense
beaucoup de ces
à Calix Ploton, c'était pas un délégué mineur.
Si, il me semblait bien. Mais je peux pas répondre à cette question-là. J'ai lu assez peu de rapports. J'en ai lu assez pour voir que. Et de toute façon, au moment des grandes catastrophes, on s'aperçoit que tout le monde est dans le. Et dans le potage, quoi. Hein. Oui. Je veux dire, que ce soit les journalistes, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les mineurs, que ce soit les délégués, que ce soit... Enfin, bon, voilà. Encore une fois, ça n'est qu'après Courrières qu'on a vraiment une doctrine complète sur les grandes explosions. Puis dans certains cas, on s'aperçoit que les délégués mineurs s'occupent beaucoup plus de l'eau qu'il y a dans les galeries, qui est très gênante et qui est un vrai problème, ou s'occupent beaucoup plus de la dignité des mineurs, mais qu'en fait, sur les aspects proprement sécuritaires, ils ne sont pas toujours au point, c'est variable.
D'accord. Alors, tout le monde est dans le potage, je reprends votre expression, ça nous amène au retentissement, aux effets sociaux, culturels aussi peut-être, de ces catastrophes. Alors, j'ai noté aussi dans la chanson de Jacques Vacher qu'il y a un vers qui dit « Petits enfants, vieillards et femmes interrogent le gouffre noir ». Donc, il y a toute la question qu'est-ce qui se passe lorsqu'une catastrophe minière est annoncée. D'abord, on l'annonce par des sirènes. Moi, je l'ai entendu en 68. La sirène du Puy-Charles, je l'ai entendu en 68 quand j'étais au lycée. Mais je ne sais pas depuis quand on utilisait la sirène pour annoncer la catastrophe. Mais de fait est, on peut le lire dans Germinal aussi, que les femmes arrivent aux grilles. On l'a vu à Courrières, il y a une masse énorme. Et je crois que vous avez un exemple stéphanois. C'est plus sur...
Villars. Sur Villars.
La Chana.
On a le Bois-Monzil aussi.
Le Bois-Monzil, voilà.
Alors oui, de toute façon, c'est des traumatismes collectifs énormes. Hein. Dès le, mais même des petits accidents sont annoncés pratiquement systématiquement dans la presse. Hein. Mmh. Dès qu'il y a un mort, c'est très fréquemment annoncé dans la presse locale. Alors quand c'est plusieurs dizaines d'un coup, oui. Là c'est... Et bon, les sirènes, moi je dirais, c'est à partir du moment où il y a eu des sirènes dans les mines qui devaient servir essentiellement à annoncer les débuts des postes. Mmh. De toute façon, avant les sirènes ou avant la radio, la rumeur se répand très très vite et parfois déformée, mais la nouvelle se répand très très vite. Et il faut voir aussi que si on n'a ni la radio ni la télévision, on est beaucoup plus tenté d'aller voir ce qui se passe d'un peu inhabituel. Donc on a très vite des foules énormes autour des puits. Au moment du puits Châtelut, on compte 7000 personnes dans les rues avoisinantes. À l'inondation du bois Montzil en 1831, il y a 10 000 badauds le dimanche, enfin 10 000 badauds ou spectateurs le dimanche, au point que on doit faire évacuer la colline pour éviter que ça ne risque d'endommager les galeries qui sont en dessous. Oui, alors après, dans cette foule, moi je dirais il y a plusieurs composantes. D'abord, il y a les familles, parce que mais comme on trouve aujourd'hui dans les grandes catastrophes, hein, d'ailleurs, avoir des listes fiables des victimes, c'est pas facile du tout. Oui. Et donc, les gens cherchent à se renseigner. Il y a les familles, il y a les amis. Mais il y a aussi des gens qui viennent pour voir, comme quand il y a un grand incendie de forêt, il y a des gens qui viennent pour voir ça. On a des photos, c'est en Belgique, à Marcinelle, il y a un terri à côté du puits. Et on voit que des gens sont montés sur le terri pour observer.
Alors on a un deuxième texte, une deuxième chanson à propos de la catastrophe du puits d'Olomieu.
Oui, de l'inondation du puits d'Olomieu.
1979, c'est ça c'est celle-là,
non 1901, il me semble.
1901.
1901, d'accord. On va l'écouter.
C'est un malheur épouvantable, hélas que je vais vous conter. Écoutez ce fait effroyable, des mineurs par l'eau emportés tout au fond du puits, ils sont engloutis pour nourrir les enfants, les femmes. Au travail, ils étaient partis, cœur content et la joie dans l'âme. Quand ce grand fléau les surprit, c'est près de Roche la Molière, tout au fond du puits d'Olomieu, que l'eau tout à coup sans manière les entraîne. Spectacle affreux, sont-ils morts ou vivants, pleurent femmes et enfants. Mais les mineurs avec courage, les ingénieurs, les gouverneurs se remettent alors à l'ouvrage, le cœur ferme et rempli d'ardeur, travaillent en peinant sans relâche pour secourir leurs compagnons et ne voulant quitter leur tâche. Quand les forces les abandonnent du matin au soir, toujours plein d'espoir. Mais dans la première journée, ils trouveront quel triste sort. 4 victimes infortunées, un vivant, 2 blessés, 1 mort. Il faut que leur travail s'achève afin de sauver leurs amis. Alors sans repos et sans trêve, ils travaillent toute la nuit. Quant à tout hasard, le brave Sagnard, ayant de l'eau jusqu'à l'épaule, ils pénètrent malgré le danger. Ils sont la huitaine qui se désole, mais le héros les a sauvés. Brave mineur, allons courage, et si vos grands cœurs sont en deuil, il faut se remettre à l'ouvrage, en pouvant dire avec orgueil, pour l'humanité, c'est notre fierté. Nous faisons marcher les usines, il n'est pas l'industrie sans nous, et chaque produit de nos mines sont utiles à chacun de nous. Nous faisons marcher chacun de nous.
Donc une chanson interprétée par Didier Pourrat sur la catastrophe du Puy de Lemieux. Donc je me suis trompé, c'est 1901, c'est ça ?
C'est ça.
Et dans ce texte, il est dit à la fin, il faut se remettre à l'œuvre, nous faisons marcher les usines, il n'est pas d'industrie sans nous. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'il y a quand même des réactions plus ou moins vives dans la population ouvrière ? Quel rôle jouent les syndicats après coup ? Bon, il y a une agitation, j'imagine, qui ne retombe pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer en écoutant la chanson. Là.
Alors, ça dépend des cas. Il faut reprendre événement par événement. D'une part, il y a un certain nombre de mineurs qui quittent la mine après les grands accidents. Et il y a aussi des réticences. Alors, il y a un cas, mais je me souviens plus lequel c'est, où presque un an plus tard, les mineurs refusent de descendre dans la mine en disant, et parce qu'il y a un sous-traitant qui doit faire des explosions dans cette mine où il y a eu une grande catastrophe. Et donc les mineurs disent, non mais nous on ne veut pas être en bas à ce moment-là, on veut bien rattraper les heures, mais on ne veut pas être en bas à ce moment-là. Bon, il y a les journées de grève, effectivement, la grève en particulier le jour de l'enterrement officiel, c'est ce qui se passe à la Chana où... La compagnie est un peu obligée d'accorder la journée parce que de toute façon, il y a un mot d'ordre de grève et parce que de toute façon, il y a beaucoup de mineurs qui ne seront pas au fond.
Mais on rappelle qu'on est en pleine guerre là.
On est en pleine guerre.
Deuxième guerre mondiale.
En pleine Deuxième Guerre mondiale, c'est la zone non occupée. Donc c'est la zone administrée entièrement par Vichy. Comment dire ? Mais enfin, de toute façon, les syndicats n'y sont pas en odeur de sainteté, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais la compagnie est obligée d'accorder la journée parce que, de toute façon, sinon, ça ira vraiment pas du tout. Et puis, le gros exemple qu'il y a, c'est après Courrières. Mais Courrières, c'est presque 1200 morts. Où là, il y a une grève extrêmement violente qui éclate quelques jours après. Et ça tourne...
Qui a duré plusieurs semaines.
Qui a duré plusieurs semaines, où il y a eu des affrontements extrêmement violents, des barricades dans les rues, un officier tué par une brique, des affrontements entre grévistes et non-grévistes. Voilà.
Alors, ce sont des événements qui posent quand même la question, la responsabilité. Qui est responsable ? L'entreprise, les concessionnaires, après les houillères quand elles sont nationalisées après 1946 ? Ou certains ingénieurs, ou certains patrons invoquent la responsabilité des mineurs.
Voilà.
Donc c'est un grand débat, ça.
C'est un grand débat. Ce que je disais, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup mieux les causes des petits accidents que celles des grands accidents. Pour les petits accidents, il y a, comme en particulier les rapports sur les explosions ont été compilés systématiquement à la fin du 19e siècle, surtout le 19e. Donc là, on a vraiment une source intéressante et assez construite. On s'aperçoit, moi je dirais, on trouve des imprudences des mineurs. On trouve des imprudences des compagnies. Bon, c'est le cas pour l'explosion du puits Châtelut, dont le directeur et l'ingénieur sont condamnés par la justice pour ne pas avoir fait respecter le règlement sur les tirs de mines, le règlement imposé par l'administration des mines et qui n'a pas été respecté. Le règlement disait qu'il faut que les tirs de mines soient faits par des ouvriers spécialisés, des bouts de feu. Et en fait, dans cette mine-là, n'importe quel ouvrier pouvait aller chercher des cartouches et les faire sauter. Donc voilà. Comment dire ?
Donc il y a des procès.
Il y a eu beaucoup de procès, liés au, j'ose pas parler d'indemnisation, plutôt au secours financier. D'ailleurs, ça amène aussi à la question des caisses de secours, qui est encore une autre question. En tout cas, et puis moi, je dirais, il y a un facteur très important qui est la méconnaissance technique. C'est-à-dire que de toute façon, tant que vous n'avez pas identifié tous les facteurs de risque, vous ratez beaucoup de choses. Après Courrières, donc, quand il y a des expériences déterminent quelles sont les poussières qui peuvent causer des explosions, puisqu'il faut certaines qualités de poussière, certaines qualités de granulométrie, etc. C'est un choc pour les ingénieurs des mines parce que quand les résultats sont distribués, ils disent « mais nous, on a ça partout ». Pratiquement. enfin presque partout, quoi. Donc il y a un classement à l'époque des mines poussiéreuses du danger qui est complètement revu à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'avant, le danger, il était là aussi, mais on ne savait pas l'identifier. Voilà. Donc, bon, moi, il y a eu des imprudences des ouvriers, donc il y a eu des imprudences patronales. Évidemment, les patrons parlent toujours des imprudences des ouvriers, donc ils parlent toujours de la catastrophe causée par la lampe qui a été ouverte ou par le mineur qui a fumé. Moi, je suis très, très prudent par rapport à ce genre de choses, parce que c'est rarement prouvé, c'est le moins qu'on puisse dire. En sens inverse, les employeurs oublient de parler du danger propre des explosifs. On trouve ça seulement dans certaines publications, certains ingénieurs qui le disent. C'est clair que les explosifs, eux aussi, étaient un danger en soi et un danger constant. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut avoir une vision nuancée. Évidemment, après le grand accident, la population ouvrière, elle, elle est complètement révoltée, quoi. Mmh. Et donc, mmh. elle dit « c'est la faute du patron ». Mais en réalité, il faut être beaucoup plus
nuancé. Alors, on a des rapports nombreux. Hein, l'un que vous connaissez sans doute, du docteur Alfred Riambeau, qui dit, alors, je ne sais pas la date exacte, mais l'imprudence des ouvriers est le plus souvent la cause du mal.
Alors, Riambeau, qui est un personnage très très intéressant, qui sera un des premiers à dénoncer systématiquement ce qu'il appelle l'encombrement charbonneux, c'est-à-dire qui sera ensuite appelé la silicose, et à la dénoncer massivement, quoi, à dire ça tue tous les mineurs en quelques décennies, enfin bon voilà. Il est aussi très lié au milieu des ingénieurs des mines, quand il parle de l'imprudence des ouvriers, c'est le discours des ingénieurs des mines depuis les débuts du 19e. Mmh. Moi, je pense que oui, il y a eu des imprudences, mais que non, par exemple, on ne peut pas leur imputer les grandes catastrophes, dont en réalité, on sait très peu de choses sur leurs origines, mais en général, on ne sait pas. Et moi, ces explications par l'imprudence, que ce soit des ouvriers ou des compagnies, me gênent beaucoup parce que c'est des explications par des comportements suicidaires, à dire. Oui. Bon, bah, oui, il y en a eu, évidemment, mais non, c'était quand même pas la généralité.
Alors donc, ça va quand même poser un certain nombre de questions politiques. Je parlais tout à l'heure des procès. On sait qu'un homme politique stéphanois particulièrement célèbre, qui s'appelle Antoine Durafour, a commencé sa carrière d'avocat comme défenseur des veuves de victimes d'accidents dans les années 1906-1908. Et on sait la carrière qu'il a connue après, puisqu'il a été ministre du Travail notamment. Mais il y a aussi donc les débats qui vont venir des partis de gauche, Parti socialiste avant 1914, Parti communiste après 1914. Alors, le Parti communiste est particulièrement en pointe au lendemain de la catastrophe du Puy-Combe en 1928. J'ai juste là un texte que je voudrais mentionner, là, qui date du 14 décembre 1948, qui est une lettre ouverte à Monsieur le Préfet de la Loire, signée par Louis Guyon, qui était le secrétaire de la Fédération régionale des mineurs, et qui nous place dans un contexte très particulier, celui des lendemains de la grève de 1948, où sur les 64 délégués mineurs du bassin, 34 avaient été révoqués. Et... Le texte proteste énergiquement contre l'arrestation des délégués mineurs, la suspension presque totale de ces délégués au fond. Certains puits n'ont même pas de suppléants pour veiller à la sécurité dans un bassin où les accidents mortels sont fréquents. Donc on voit la mémoire collective. En plus, des catastrophes restent à la mémoire de toute la population de notre région, celle de la Loire, Chana, puis Mars, puis Combes, les Platanes, qui ont fait plus de 100 victimes. Et donc il y a une protestation là. Et après, dans les années qui suivent, si on lit la presse, comme vous l'avez fait à travers le Patriote notamment, systématiquement, hein, on est dans la période où le Parti communiste est dans une opposition systématique au pouvoir, le Parti communiste impute la responsabilité de ces catastrophes à la gestion, à la mauvaise gestion des houillères, des charbonnages de France.
Alors, c'est effectivement un réflexe très largement répandu, en tout cas dans la population minière, de dire c'est la faute de l'employeur. C'est une réaction immédiate qui est forte après les accidents. Il faut comprendre aussi que le temps soit de trouver les causes quand on peut les trouver, soit de trouver des éléments des causes, il est beaucoup plus lent. C'est-à-dire que les rapports définitifs sur les grands accidents, ils sortent 2 ou 3 ans après. Hein. Ouais. Je veux dire, le temps d'analyser, rassembler des indices, analyser, et pas toujours trouver.
Oui, il y a le temps de l'émotion et puis il y a le temps de l'enquête.
De l'enquête et de l'analyse. Ouais. Et je ne pense pas qu'il était possible de... Donc, comment dire, ce réflexe-là de dire « c'est la faute du patron », oui, il est fréquent. Est-il, jusqu'où est-il fondé en raison? C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse.
Il y a l'utilisation politique, quoi. C'est ça qu'on peut...
Oui, oui. Comment dire? Oui, bien sûr. Bon, sur les délégués mineurs, bon, j'ai donné mon avis tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire, je pense que dans certains cas, oui, c'était des véritables experts de la sécurité. Dans d'autres, ça me paraît beaucoup moins net. Bon, et par contre, et d'autre part aussi, ce qui est vrai, c'est que les délégués mineurs qui sont créés, effectivement, suite à la série de grandes catastrophes, ont été pendant longtemps traités en intrus par les compagnies, hein, avec les ingénieurs qui mettaient systématiquement leur rapport au panier. Alors quand même, certainement... les catastrophes minières, c'est ce qui explique le rôle un peu pionnier des mineurs dans les législations sociales qui se mettent en place à la fin du 19e. Puisque finalement, les mineurs, première convention collective avec les conventions d'Arras, premier délégué des ouvriers avec les délégués mineurs, 1890. Alors pour les caisses de secours, c'est moins vrai. Il existait déjà des caisses de secours dans d'autres domaines professionnels, mais la loi de 1894 est quand même un point très important. Et d'autre part, les catastrophes minières ont eu un rôle très important aussi dans la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui renverse la charge de la preuve.
C'est ça.
C'est-à-dire que avant... pour que l'employeur soit condamné, il faut apporter la preuve qu'il a commis une faute, et même une faute inexcusable, alors qu'ensuite, s'il n'y a pas preuve, enfin, ensuite, l'employeur est tenu pour responsable, sauf évidemment preuve du contraire, c'est-à-dire preuve d'une imprudence caractérisée de l'ouvrier. Voilà. Bon, en même temps, la loi de 1898 met en place des indemnisations qui sont très restreintes, qui sont de l'ordre de 20% du salaire. Bon, ce qui laissera encore beaucoup de procès d'ailleurs, puisque si on peut prouver la faute inexcusable, c'est beaucoup plus.
Bien, en tout cas, un grand nombre de catastrophes. Vous l'avez dit, plus de 5000 morts dans le bassin de la Loire. Je voudrais conclure par un retour sur la catastrophe du bois Monzil de 1831. J'ai lu dans la thèse de Michael Douarte sur les corps en enfer qu'elle a connu une résonance mondiale puisque des articles sont parus sur cette catastrophe dans des journaux et des revues anglaises et américaines et qu'elle est évoquée par Charles Dickens dans son journal le 24 juin 1865, donc plus de 30 ans après. Voilà, merci pour ce tour d'horizon sur les catastrophes minières. C'était quand même important d'y revenir. On y reviendra certainement. Et je rappelle que cette émission a été organisée pour anticiper un petit peu sur cette exposition que vous êtes en train de monter au musée de la mine site Couriot. Exposition qui va se tenir à la fin, qui va s'ouvrir à la fin de 2019, voilà, je me reviens deux siècles en arrière, à la fin de 2019, et donc qui sera consacré aux catastrophes minières dans la Loire. Merci donc à Jean-Paul Gachignard de nous avoir éclairé avec sa lampe de mineur sur cette question grave des catastrophes de la mine. Voilà.
N'altère ma bonne humeur, mais très changeant par caractère. J'ai voulu parcourir la terre et toujours en brave mineur. J'ai travaillé dans la Bretagne et revins hier d'Allemagne. Triste pays pour un buveur, triste pays pour un buveur. Et je puis dire sans mentir, ça vous fera sourire, ça nous fera plaisir. Que le vrai mineur, bon garçon, brave quoi qu'il advienne. Que le vrai mineur est le vrai compagnon, c'est le mineur de Saint-Étienne. Et je puis dire...
Voilà, le mineur de Saint-Étienne, c'est le bon compagnon. Toujours issu de ce pauvre mineur, mineur joyeux, poème et chanson sur les mines et les mineurs de la Loire, 1815-1914. On peut le rappeler... qui est toujours disponible, hein, bien sûr.
Ah, bien sûr, oui, qui est toujours en vente au musée de la mine.
Et produit d'un grand travail fait par Jean-Paul, justement. Sur...
Voilà, tout à fait. Et c'était Ronde des mineurs de Saint-Étienne, hein, de Joseph Biron, un texte de 1866 chanté par Didier Poura à nouveau. On termine, Jean-Michel par et Jean-Paul, agenda. Par un petit agenda et des rendez-vous à venir.
Alors, je commence par une exposition photo qui a lieu au NEC, à Saint-Priest-en-Jarret, par l'atelier photo de Saint-Priest-en-Jarret. Donc, c'est intitulé Photo-texte et ça dure du 13 mai au 7 juin. Vous êtes conviés donc à aller assister, à aller découvrir cette exposition au NEC du 13 mai au 7 juin. Je voudrais ensuite parler alors un peu plus longuement du parcours mémoriel Résistance dans le Pilat, un parcours de mémoire et d'évocation qui est organisé par l'Office national des anciens combattants, l'Amicale Résistance de la vallée du Gier et le Souvenir français. Avec un commentaire historique qui sera fait par Michel Destour tout au long de ce parcours qui va commencer le dimanche, enfin qui aura lieu le dimanche 19 mai, qui va commencer à 9h. Le rendez-vous est donné au parking du rond-point Vélocio à Saint-Étienne. Et il va s'échelonner en différents points. Donc d'abord la Versanne, donc le lieu du massacre du maquis polonais. En juillet 1944. Ensuite, le parcours va aller vers différentes plaques, donc à Bourg-Argental, à Chavanay, jusqu'à Saint-Michel-sur-Rhône, à Ampuy, puis revenir à la Bachasse, vers la Grand-Croix. Et le retour est donc prévu à 17h. Alors pour vous inscrire, c'est gratuit, mais on vous demande de vous inscrire, il faudrait téléphoner au 04 77 91 14. Je rappelle, 04 77 91 14 pour ce parcours mémoriel Résistance dans le Pilat avec le commentaire historique de Michel Destour.
Eh bien, pour poursuivre peut-être Jean-Michel dans la même veine, une visite guidée des lieux de la résistance et de la collaboration est prévue à Saint-Étienne. Ce sera ce vendredi 17 mai. Cela intervient dans le cadre d'une semaine un peu particulière, deux poids, deux mesures, une semaine d'événements autour du spectacle Les Tondus, qui a commencé le 12 mai dernier, qui se prolonge jusqu'à ce samedi 18 mai. C'est les associations Avataria et La Laverie qui proposent ces rendez-vous. C'est ce vendredi 17 mai qu'aura lieu cette visite à partir de 16h30. Départ prévu sur le parvis de la gare de Château-Creux, devant le monument de la résistance de la déportation de la Loire. Et c'est Richard Bouligaud, spécialiste de la collaboration et de l'épuration dans la Loire de 40 à 44, co-auteur du livre collectif Entre ombre et lumière, le département de la Loire 1939 à 1945, qui emmènera le public sur les traces donc de cette histoire à Saint-Étienne. Les places sont limitées, vous pouvez également vous inscrire auprès de La Laverie, lalaverie.association@gmail.com, lalaverie.association@gmail.com. Pas mal d'événements dans le cadre de cette semaine autour des tondus. Les tondus, c'est 20 000 femmes évaluées hein, à peu près, qui furent tondues de 41 à 46 sur les places publiques dans l'ensemble du territoire français, accusées d'avoir eu des relations, on va dire, privilégiées avec l'ennemi allemand. Les tondus, précisément, est un spectacle déambulatoire proposé par la compagnie Les Arts Roseurs. Et ce spectacle est joué aujourd'hui, ce jeudi 16 mai. C'est en espace public, donc en rue. Le départ est prévu aujourd'hui à partir de 18h30 devant l'église du Soleil pour 1h30 de déambulation donc et de spectacle de rue autour de cette histoire à nouveau.
Je peux rappeler qu'il y a eu quelques hommes tondus aussi.
Quelques hommes tondus
à Saint-Étienne.
Tout à fait. Alors même plusieurs parce que ça a été abordé à la Cinémathèque ce début de semaine d'ailleurs hein, puisqu'il y avait la projection du film Tondu en 44, ce film de Jean-Pierre Carlon qui était proposé en présence jusqu'à hier, et même ce matin je crois qu'il est parti, Fabrice Virgili, qui est historien et auteur de La France virile, des femmes tondues à la libération, assez spécialiste sur la question. A noter qu'une rencontre est prévue à nouveau en discussion autour de ce spectacle étendu, c'est ce vendredi 17 mai à 19h au Almazra, donc près de la Bourse du Travail à Saint-Étienne, en présence de la compagnie Les Arroseurs, en présence de Sophie Antoine, qui est comédienne, circassienne et activiste féministe, et Richard Bouligaud également, l'historien donc spécialiste de ces questions, qui sera également présent pour participer à cette rencontre discussion. Donc c'est à partir de 19h ce vendredi 17 mai, et juste pour terminer, cette semaine d'événements autour des tondus se bouclera ce samedi 18 mai au matin à partir de 10h avec un rendez-vous radiophonique, puisque c'est sur Radio Audio en direct, et bien que sera proposé 4 heures d'antenne, libre antenne même, hein, puisque chacun, chacune est bienvenu pour et bien pouvoir s'exprimer à la fois sur cette histoire, pourquoi pas, mais aussi ce que cela peut évoquer, l'histoire du corps, des corps, de la résistance peut-être au sens large ou autre. Voilà, tout est bienvenu pour ces 4 heures d'antenne en direct de la Gueule Noire, donc à la Gueule Noire. Ce sera ce samedi matin à partir de 10h et cela sera suivi d'un petit resto de la Gueule Noire en soutien au collectif Kaamelott qui intervient auprès des personnes en difficulté, personnes en situation irrégulière notamment et sans abri à Saint-Étienne. Voilà, la Gueule Noire est située 16 rue du Mont, c'est quartier Bellevue. À Saint-Étienne. Et puis juste, on peut préciser avec 2-3 infos à nouveau complémentaires, puisqu'il est question de résistance ici. On rappelle tout de même que c'est ce week-end qu'a lieu le grand rassemblement des Glières, proposé par l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années en réaction aux propos de Sarkozy à l'époque. Et donc ce sont 2-3 jours d'échanges, de projections, de discussions, avec un forum des résistances d'aujourd'hui qui est prévu. Ça se passe sur le plateau des Glières, c'est en Haute-Savoie, c'est 17, 18 et 19 mai, avec un gros programme prévu. Toujours bien sûr l'occasion de se réapproprier les grandes lignes du CNR, du Conseil National de la Résistance, créé en 1944, pour parler de résistance aussi d'aujourd'hui. Vous avez toutes les infos citoyens-résistants.fr, le tout au pluriel. Et puis on avait quand même peut-être une ou deux autres petites infos, Jean-Michel, on a parlé, et Jean-Paul, puisqu'on a parlé de mines, des catastrophes minières, vous avez parlé des grèves de mineurs, on peut parler de catastrophes véritablement pour la fusillade du Brûlé à la Ricamari, cette grande grève qui touchait le bassin en 1869, tous les sites il me semble, et grève qui a donné lieu à cette catastrophe-là, puisque les mineurs ont été abattus par la police en se rendant de la Ricamari à la prison de Saint-Étienne,
par l'armée. Mais on pourra revenir dessus peut-être.
Voilà, mais simplement, c'est pour dire que ce sont les 150 ans de la fusillade du Brûlé.
Exactement.
Et que toute une fête est prévue le 16 juin prochain, même plus précisément du 14 au 16 juin prochain, à la Ricamari pour cette grande fête de commémoration, avec différentes propositions faites pour ces 150 ans de la commémoration, avec concerts prévus, mais également projections autour, notamment, j'ai noté, de la catastrophe de Beaujon en Belgique, avec également le film muet Misère au Borinage. Un film engagé qui explore les conditions de vie difficiles des mineurs, toujours au Borinage, donc dans cette région belge wallonne. Ce seront des rendez-vous en concert, en projection, en ciné-concert qui sont prévus donc du 14 au 16 juin prochain à la Ricamari. Je l'annonce parce que la prochaine émission du Grémos n'aura lieu que quelques jours après. La dernière de cette saison aura lieu le troisième jeudi du mois de juin. Ce sera donc le 20 juin prochain.
Il sera consacré à la question des archives du Crésal.
Très bien, le labo de recherche, on va dire en sciences humaines et sociales, sur Saint-Étienne. On termine avec, allez, peut-être une dernière info à nouveau, il y en a de nombreuses, mais c'est une rencontre qui a lieu cette fin de semaine, ce vendredi. On a invité il y a quelque temps Jean-Michel Rachid Kadour, auteur du livre Les Grands Ensembles, Patrimoine en devenir, chronique de la valorisation, dévalorisation et revalorisation d'opérations exemplaires à Saint-Étienne. C'est paru désormais au PUS, les publications de l'Université de Saint-Étienne, il y a tout juste quelques jours. Que sont nos quartiers devenus, était la question posée pour une rencontre début mai à la librairie L'une et l'autre. Tout à fait dans la, je dirais presque la même veine, en tout cas pour prolonger la réflexion sur ces questions, c'est ce vendredi 17 mai que la librairie L'une et l'autre à Saint-Étienne invite Victor Collet, auteur du livre Nanterre, du bidonville à la cité, qui est paru aux éditions Agone. Donc l'occasion aussi de réaborder ces questions de la naissance des bidonvilles où se sont installés des immigrés venus d'Algérie, du Maroc, du Portugal. Ils étaient nombreux sur cette région de Nanterre. Ce sera abordé et fera l'objet d'une discussion ce vendredi 17 mai à 19h à l'Amicale Laïque du Crédroc. Cette fois, c'est décentralisé. C'est 16 rue Royale, bien sûr, à Saint-Étienne, sur le quartier dit du Crédroc, en présence de Victor Collet. L'entrée est libre, c'est à partir de 19h. Voilà, pour toutes les infos, on renvoie sur le site dédié du Grémos, grémos.l'autre.net, où vous aurez ces infos et ces agendas peut-être plus détaillés.
Et on ne dira pas, comme certains footballeurs, qu'il ne se passe rien à Saint-Étienne.
On ne peut pas le dire, non. En effet. On se dit au mois prochain.
Au mois prochain.
Merci Jean-Paul, merci Jean-Michel.
Merci à
tous. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.